VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion. Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Les militaires au pouvoir sont sous pression des pays occidentaux et des manifestants pour passer rapidement la main à un gouvernement civil au Soudan où des milliers de protestataires refusent toujours aujourd'hui de mettre fin au sit-in devant le QG de l'armée. La destitution jeudi par l'armée du président Omar el-Béchir et les promesses du Conseil militaire de transition depuis au pouvoir n'ont pas dissuadé les milliers de Soudanais qui campe depuis 10 jours devant le siège de l'armée à Khartoum. L'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation qui secoue le pays depuis décembre, a exhorté dimanche le conseil militaire mené par le général Bourhan à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil. Au Tchad, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, s'est tenu ce week-end à N'Djamena, la capitale, où il a été question de la situation sécuritaire au Soudan et en Libye. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodbajinga.
La conférence extraordinaire de N'Djamena vise à réactiver l'organisation en lui donnant un souffle nouveau à travers l'entrée en vigueur de son traité révisé, car la dernière rencontre des chefs d'État de l'espace sahélo-saharien date de 2013. Depuis ce jour, l'organisation n'est plus que l'ombre d'elle-même. La rencontre de ce week-end à N'Djamena s'est tenue sans le président soudanais, contraint à la démission par son peuple, et le président du Conseil national de transition libyenne, dont le pays abrite le siège de la CENSAD. Mais cela n'a pas empêché les autres chefs d'État et de gouvernement d'adopter une déclaration commune par rapport à la situation de crise que traverse ce pays. Kamissa Camara est la chef de la diplomatie malienne.
La conférence lance à toutes les parties libyennes un appel à observer un cessez-le-feu immédiat, à relancer le dialogue national et à se conformer au plan d'action pour la Libye des Nations Unies. La conférence a exprimé sa préoccupation face à la situation au Soudan et lance un appel à tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation en vue de l'instauration d'une transition pacifique consensuelle.
Pour Dobien Assingar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est le manque d'alternance politique en Afrique qui serait à l'origine de ces désordres.
Les États font n'importe quoi. Et quand ça leur pète à la gueule, ils s'étonnent que ça arrive. Ils sont là à tordre le cou à la Constitution et à leur propre loi. Ils organisent des élections qui ne perdent jamais. Quand il n'y a pas d'alternance politique, quelle voie il vous reste? Le peuple en a marre. Il s'est exprimé au Soudan parce que le pouvoir appartient d'abord au peuple. Il a récupéré son pouvoir. Il en fera ce qu'il veut. C'est pas la petite CENSAD là qui va faire quelque chose pendant que l'ONU est en train de tenir des réunions pour statuer sur le cas de la Libye. Quand il y a eu un incendie quelque part et que le vent souffle, ça risque de venir chez le voisin. Donc c'est normal que ses voisins soient apeurés.
Abdraman Gasnabaï, ambassadeur de la paix auprès de la francophonie, se félicite plutôt de ces résolutions qui, selon lui, vont contribuer à l'apaisement de la situation dans les deux pays.
Il faut espérer. La Libye se trouve dans une situation de combat et au niveau du Soudan, la situation aussi évolue de jour en jour. Donc rien n'est définitivement réglé ni dans l'un ni dans l'autre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens vont dans le sens de l'apaisement au Soudan. Et la proposition de la CENSAD vient renforcer cette position-là.
Compte tenu de l'insécurité en Libye, le sommet a décidé de la délocalisation du siège de la CENSAD provisoirement à N'Djamena et le président Déby reste aux commandes jusqu'à la mise en place prochaine du secrétariat de l'organisation. André Kodmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
La France a décidé de geler les avoirs de plusieurs responsables burundais. Pareil, les accuse d'atteinte à la démocratie ou d'actes de violence en 2015 à l'annonce d'une troisième candidature du chef de l'État. Le point, Abdourahmane Dia.
Le directeur général adjoint de la police nationale, Godefroy Bizimana, est le premier visé. Il lui est reproché d'avoir porté atteinte à la démocratie et de recours disproportionné à la force et actes de répression violente des manifestations d'opposants ayant suivi l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza. Un chef de cabinet de la présidence, Gervais Ndirakobuka, est lui accusé d'avoir ordonné un recours disproportionné à la force face aux manifestants. Quant à l'ancien chef de mission de la présidence, Léonard Nguendakoumana, Paris estime qu'il est responsable d'actes de violence et d'attaques à la grenade contre les manifestants. Enfin, un agent de service de renseignement, Mathias Joseph Nyonzima, aurait, je cite, « incité à la violence et formé les milices paramilitaires Imbonerakure, responsables de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi ». Fin de citation. Les fonds et ressources économiques détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées sont gelés, précise l'arrêté en date du 11 avril, entré en vigueur hier pour une durée de 6 mois.
Libye, au moins 121 personnes ont été tuées en 10 jours d'affrontements au sud de la capitale Tripoli, mais les positions de deux camps rivaux sur le front semblent figées dans un quasi statu quo depuis des jours. Au moins 121 personnes, je l'ai dit, ont été tuées. Les combats violents qui opposent les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, à celles du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli depuis le 4 avril ont également fait 561 blessés, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui n'a pas précisé le nombre de civils parmi ces victimes. Une quarantaine de maires sur les 1500 que compte l'Algérie ont annoncé dimanche leur refus d'encadrer l'élection présidentielle du 4 juillet en signe de soutien à la contestation en cours contre le régime. En Algérie, les mairies jouent un rôle important dans la supervision des listes électorales et l'organisation matérielle du scrutin, le déroulement des opérations de vote et le dépouillement des suffrages. Ces maires emboîtent ainsi le pas à certains magistrats, autres maillons importants dans l'organisation des scrutins, qui ont annoncé lundi leur décision de boycotter la supervision de l'élection du 4 juillet.
Nos infos sur voafrique.com.
Ivanka Trump, la fille et conseillère du président américain Donald Trump, a entamé hier une visite dans deux pays africains. C'est pour promouvoir une initiative américaine visant à promouvoir l'emploi des femmes dans les pays en développement. Arrivée hier à Addis Abeba en Éthiopie, où elle va passer deux jours, Ivanka Trump se rendra ensuite en Côte d'Ivoire pour 48 heures également. Son voyage de 4 jours donc vise à promouvoir l'initiative américaine dotée de 50 millions de dollars visant à outiller les femmes dans les pays en développement à faire face aux défis du sous-emploi. Ici à Washington, on s'attend à la publication aujourd'hui ou demain d'une version expurgée du rapport de 400 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Idrissa Seydou Dia.
M. Mueller a consacré 22 mois à son enquête pour déterminer s'il y avait eu coordination entre la campagne du candidat Donald Trump et Moscou et si, une fois président, M. Trump s'est rendu coupable d'obstruction de la justice. Dans un résumé de ce rapport, le ministre de la Justice, William Barr, avait dit que M. Mueller avait conclu à l'absence de collusion avec la Russie, mais qu'il n'était arrivé à aucune conclusion concernant le deuxième point. Il avait exclu ainsi toute charge à ce sujet. Pour sa part, l'opposition démocrate insiste sur la publication du rapport dans son intégralité, tandis que M. Trump et la Maison-Blanche soutiennent que le président a été totalement exonéré par M. Barr et son adjoint Rothschild-Stein qui supervisait l'enquête.
Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est dit prêt aujourd'hui à aller n'importe où pour retrouver le leader nord-coréen Kim Jong-un pour un quatrième sommet, saluant la volonté de ce dernier de relancer les négociations avec les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen s'est dit vendredi ouvert à l'idée d'un troisième sommet avec le président américain Donald Trump si Washington arrivait à la table des négociations avec la bonne attitude deux mois après le fiasco à Hanoï de leur deuxième rencontre. Monsieur Moon, qui a été un des grands artisans du moins, de la détente sur la péninsule et du rapprochement de Washington et Pyongyang, a salué l'engagement ferme de M. Kim en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et a appelé de ses voeux un nouveau sommet intercoréen qui serait le quatrième en un an. Plus de 190 millions d'Indonésiens sont appelés aux urnes mercredi lors de l'une des plus grandes opérations électorales jamais organisées en un seul jour. Les électeurs de la troisième plus grande démocratie au monde, derrière l'Inde et les États-Unis, doivent choisir leur président, mais aussi des centaines de députés et des milliers d'élus locaux. L'élection présidentielle oppose le président sortant Joko Widodo, un homme du peuple qui cultive le consensus, à un ancien général, Prabowo Subianto, qui veut diriger la troisième plus grande démocratie au monde avec plus de poigne. Et puis les États membres de l'Union européenne ont approuvé aujourd'hui l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis en dépit de l'opposition de la France. La France a voté contre et la Belgique s'est abstenue lors du vote organisé pour approuver le lancement de ces négociations dont l'objectif est d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 25 minutes. dans 50 minutes, et ce sera avec Henri Francisco.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.